mais c'est vrai que c'est au début de la chanson et à la fin, c'est un peu agressif. En tout cas, la compilation est très bien et j'en repasserai à nouveau, quoi qu'il en soit.
Coupé,
il est 20h.
On se dit au revoir.
En retard. Gros bisous chez nous. Il y aura Arnaud qui reviendra, on espère. Voilà.
À dans deux semaines.
Gros bisous tout le monde.
Big up à tous.
Bonne soirée. Ciao.
Ciao. Why you go living in a murder zone? Help me, Jack. Oh, I'm living in a danger zone. Murder life. Why you go living in a murder zone? Mama ball and papa ball. To see them youth dying in the streets. To my gunshot, you can't walk too free. Light bulb.
Chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport.
Justement à développer la biodiversité.
Chez Se Loger, nous sommes aux côtés des professionnels.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Sport. On est le mardi 10 octobre et nous sommes toujours là pour vous présenter les actualités locales et internationales de la semaine. Avant de passer au sommaire de l'émission, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir. On a Cédric à ma droite à la régie. Salut Cédric.
Salut à tout le monde.
Ça va? T'as passé un bon week-end?
Bah écoute, ouais, un peu moyen, on va dire, niveau sport quand même, hein, hormis le mini-espoir, on va dire, de l'équipe de France.
C'est
mais
clair.
Mais sinon, la F1, pas terrible, je pense qu'on aura beaucoup à dire dessus. Ouais. Championnat de Ligue 1, bof. Ligue 2, un peu plus palpitant, j'ai envie de dire.
Ouais, surtout pour nous.
Surtout pour nous, entre autres. Et puis voilà, quoi, pour le tour de l'actualité de mon côté.
Bah super, j'ai aussi Clément à ma gauche, salut Clément, ça va?
Salut Faustin, salut tout le monde. Bon moi petit week-end tranquille, rien de beau, on a regardé le match de l'équipe de France en rugby et puis voilà.
T'as pas eu de match?
Non pas de match ce week-end, on était exempt parce qu'on est que 5 dans la poule et du coup on a un week-end où on a pas eu de match.
Très bien. Et bien maintenant passons au sommaire de cette émission avec en actu local évidemment le SCO Foot, celui du SCO Hand, on verra aussi le bon résultat des Ducs. On fera un coin du côté du basket local avec les trois clubs en haut niveau. En action internationale, on aura la Ligue 1 et la Ligue des Champions pour le foot. On parlera, comme tu l'as dit Cédric, de la Formule 1. Je ferai un point sur le cyclisme qui a lieu ce week-end. Et enfin, on fera un gros topo sur ce qui se passe pour la Coupe du Monde de rugby avec les quarts de finale qui approchent. Et si on a le temps, j'ai préparé une petite chronique sur la pré-saison NBA. Sans plus tarder, on va commencer, Clément, je vais te lancer sur le SCO, les résultats qui ont été bons ce week-end.
Ouais, c'est ça. Donc les Angevins, les footballeurs Angevins continuent leur très bonne lancée en remportant leur quatrième match de rang. Les 11 joueurs d'Alexandre Dujeu se déplaçaient à Amiens et commencent le match de la mauvaise des manières en encaissant un but à la 14e minute. Mais se rattrape très rapidement avec un lob superbe de Farid El Melali. L'homme en forme du moment permet aux Angevins de recoller au score. Et juste avant la mi-temps, les Angevins reprennent les devants grâce à un penalty d'Abdelli. En deuxième mi-temps, les Scoïs déroulent et grâce à des buts de Ferrat sur penalty et Unou dans les derniers instants du match, agrandissent le score final à 4-1 et permettent aux Angevins de remonter à la troisième place de Ligue 1. J'ai aussi une petite exclue, Cholet en National 1 qui traverse une période très compliquée avec 4 défaites en 5 matchs. Le Sox s'est encore malheureusement incliné sur la pelouse de Versailles ce week-end 3-2 et se retrouve sur la sellette à la 16e place et on espère que ça va mieux se passer pour la suite de la saison.
Ouais, c'est clair, on espère qu'ils vont prendre le système que de leur homologue Angevin finalement.
C'est ça.
Mais en tout cas pour le SCO c'est un très bon début de saison qui continue, 4e victoire d'affilée, je sais pas combien de temps c'était pas arrivé pour le SCO, mais ça fait plaisir.
Je suis même pas sûr qu'en Ligue 1 ça soit déjà arrivé.
Ouais, c'est possible. C'est peut-être déjà arrivé. 4 buts, ça fait plaisir Cédric.
Non mais on s'est trompé.
c'était
du hand, je sais pas, j'ai
c'était une hallucination.
Non, mais ouais, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. C'est ça confirme du coup. On s'était un petit peu trompé sur le début de saison où on pensait que ça allait être quand même compliqué.
C'est vrai qu'on avait été médisants.
Et écoute, ça fait plutôt plaisir de voir la mécanique qui tient bien. Du coup, je pense que le projet il va tenir si on part sur ces bases-là. Alors, ce qui risque de faire peut-être un petit peu mal, ça va être les matchs à l'international.
Ouais,
qui vont un petit peu casser le rythme. Alors je sais pas si on a des joueurs sélectionnés ou pas.
Quelques-uns,
ouais.
Ouais, mais c'est pas vraiment.
Pour les espoirs, je crois aussi on en a aussi.
Ouais. Mais bon, c'est pas
trop impactant a priori. C'est
ça. Mais en tout cas, non, un groupe qui a l'air de retrouver du plaisir. Donc c'est tant mieux.
Et puis surtout en confiance parce que de voir des joueurs qui marquent autant ça nous était pas arrivé depuis.
Wow. Et aussi encore une fois Yaya Fofana qui a fait un très bon match, j'ai vu 13 arrêts même si c'est pas un clean sheet, il prend que un but et il était une fois de plus décisif hein, c'est sur les 7 victoires du SCO, je crois c'est 6 clean sheets, c'est
ouais.
Et un en plus sur un 0-0 donc franchement, ça fait très plaisir de voir le SCO comme ça, en espérant que ça continue, même quand on va rencontrer les équipes un peu plus fortes. Et est-ce que, pourquoi pas, viser la montée, peut-être. On en parlait déjà la semaine dernière. On disait que c'était compliqué. Là, on rentre dans le top 3 aussi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Clément?
Moi, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose que le SCO monte. J'aimerais bien, mais... Ah, je suis pas sûr qu'on ait encore l'effectif et puis même de commencer à faire l'ascenseur comme l'a fait Metz ou d'autres équipes comme ça.
C'est pas la bonne solution.
Je suis pas sûr. Ouais. Je suis vraiment pas sûr.
C'est vrai. À voir ce que ça va donner maintenant.
Oui.
Dans les prochaines semaines et les prochains mois, en espérant que ça continue comme ça.
On va rester dans les traditions depuis d'autres émissions.
Breaking news.
Ouais, t'as tout compris. Puisque on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a les Ducs qui jouent ce soir à Nice et le match a commencé à 20h. On doit être à peu près à 9 minutes et au bout de 3 minutes, ouverture des Ducs.
Oh, magnifique. Il nous habitue à ça maintenant.
Ouais.
Dès le début de l'émission, pour notre plus grand plaisir.
Il va vraiment falloir qu'on fasse une alerte.
une grosse sirène breaking news, ça fait être cool. Maintenant, on va passer à un autre SCO. Clément, encore une fois, le SCO Hand qui a lui aussi fait comme le foot finalement.
Ouais, une victoire un petit peu plus serrée que pour les SCOistes du football. Donc, nos handballeurs se déplaçaient à Cournon d'Auvergne, l'autre promu, puisque nous aussi, nous sommes promus, et l'emportent dans un match très serré. Les joueurs d'Issam-Tej remportent le match 32-31, avec une première mi-temps qui s'achève sur un score de 16 partout, et grâce à notamment un grand Menabar, 10 buts et 8 buts pour Ahmed Abdelhak. Les Angevins réussissent à prendre le dessus dans le Money Time et se classent désormais 6e de LNH Pro League après 5 matchs.
C'est super, ça fait 3 victoires de défaite.
C'est ça.
Ouais, pour un promu, je pense que c'est pas mal. Hein.
Exactement.
On va passer maintenant au Duc, qui jouait aussi du coup la semaine dernière en même temps que les rugbyman français. C'était à l'Ice Park et ça a fait victoire 4-3 contre Cergy Pontoise. Cédric, qu'est-ce que t'étais peut-être à l'Ice Park?
Non.
Ouais, t'es préféré
non,
le rugby.
C'était compliqué là. Il y avait le drama match de rugby ou Ice Park.
Ouais,
et bon,
c'est ce que j'ai vu.
On va quand même privilégier quand même plus le rugby quand
c'était
même.
C'est important.
En tout cas, voilà. Mais en tout cas, voilà, encore un match serré hein, contre Cergy Pontoise. Puisque moi j'avais pu le voir le match de préparation juste avant la reprise où pareil le score avait été beaucoup plus large mais tout aussi serré. Voilà. Pour mon point de vue, après bon bah on continue hein, parce que mine de rien il y a eu ce petit accrochage on va dire hein, qui a fait beaucoup parler surtout à cause du score. Fait intéressant. On en avait parlé la dernière fois, le but à Marseille.
Ouais,
en 17 secondes.
Ouais.
Du coup, c'est le record absolu de Ligue Magnus, hein, de pas grand chose, hein, puisque l'ancien il était à 18.
Ah oui, d'accord.
Tout juste.
Mais voilà, donc du coup, bah, en tout cas, nos Ducs, qui font plaisir à voir, là, qui ont l'air de. D'être sur bonne lancée, là, puisque. Eh ben, j'actualise le deuxième a été marqué. Alors apparemment, soit c'est un bug parce que ça voudrait dire qu'ils auraient remarqué genre 20 secondes après le coup d'envoi.
Ah c'est bizarre.
Donc,
bah, après,
donc on va suivre, mais en tout cas voilà.
Encore un but.
Ils sont forts dans les remises en jeu.
En tout cas là, il y a quelque chose qui a l'air de se mettre en place à ce niveau-là. Donc plutôt cool. Et puis bah voilà, on a eu l'info de cette semaine pour la Coupe de France.
Ah oui,
qui va être un derby du coup, puisque on ira jouer à Cholet. Donc je crois que c'est fin octobre la date encore déterminée.
C'est pas le 26.
Alors,
c'est ça. Je crois
ça y est, ça a été validé.
Sur le calendrier en tout cas.
Parce qu'il y avait deux dates, 25 ou 26 d'évoquer et. Du coup, il y avait forcément de l'attente. Donc, on a hâte quand même de revoir cette Coupe de France aussi. Hein, même si, bon, là, logiquement, on a un tour
facile, on va dire.
Peut être facile, mais bon, c'est pas évident non plus d'aller jouer à Cholet. Ils ont quand même un bon niveau aussi. Ouais, donc, en tout cas, c'est bien. Ça va être la fête du hockey. Pour tous les fans, que ce soit en Anjou.
Ah, parfait. Ça.
C'est bien le 24-25 octobre.
C'est ça.
Et ils jouent vendredi face à Anglette, du coup, vendredi soir à domicile.
Oui.
Parfait. Et ils sont deuxièmes, c'est ça pour l'instant?
Oui, c'est ça.
Cette
victoire
oui,
et deux défaites.
Ouais, bah, c'est un début de saison sur leur standard des années précédentes,
j'ai
envie de dire.
Donc, Rouen qui a pris un peu son envol avec 9 victoires et 0 défaite. Donc,
après, on est
ça
sur.
Ça veut rien dire.
C'est
ouais.
ça, oui. Ouais. On est sur les. On va dire sur les temps de passage.
Habituel.
Voilà, ouais. C'est. Non, c'est une bonne rentrée. Il aurait pu. Voilà.
Ouais, après 9-1, on a peut-être eu peur.
C'est ça, ça casse et bon, ça a l'air de bien repartir.
Ah, tant mieux.
Ouais, tant mieux pour nos Ducs. On va maintenant passer au basket et je vais démarrer directement avec l'EAB qui a subi une nouvelle défaite en Leaders Cup contre Orléans. Cette fois, c'est sur le score de 72 à 87. Les Angevins sont donc éliminés de la Leaders Cup et ne pourront pas réaliser un back-to-back comme ils étaient tenants du titre. De plus, on a appris aussi hier le départ de Kevin Lavieille pour Andrézieux, club de N1. L'intérieur angevin avait rejoint l'équipe en 2021 et a donc contribué à la montée en Pro B il y a deux ans, ainsi que la victoire en Leaders Cup la saison dernière. À trois jours de la reprise du championnat contre Fos-sur-Mer, l'EAB doit trouver un remplaçant au plus vite pour pallier cette absence qui va faire, à mon avis, plutôt beaucoup de mal au vu de l'importance qu'avait Kevin Lavieille dans l'équipe et surtout au poste intérieur, quoi.
Ouais, c'est un peu étonnant quand même un transfert comme ça à quelques jours du démarrage de la saison.
Ouais, a priori, ça a été vu un accord commun entre le joueur et le club pour être transféré. Mais ouais, c'est vrai que c'est étrange. Je pense que moi, je l'avais vraiment pas du tout vu venir un truc comme ça. Surtout que le joueur avait l'air de se plaire, quoi. À Angers, il avait du temps de jeu, il mettait des points, il prenait des rebonds, etc. C'est dommage quand même parce que ça peut leur faire défaut au début de la saison à mon avis.
À voir, après c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait je pense du jour au lendemain. Donc est-ce que le club a eu le temps de spotter pendant ce temps-là? Ce qui est sûr, c'est que je pense que voilà, il y aura pas une arrivée forcément tout de suite. Il va y avoir un petit délai, mais
faudrait qu'il arrive peut-être dans les trois premiers matchs de.
C'est ça, il y aura le temps de s'acclimater. Si c'est un joueur étranger, si c'est un joueur qui connaît déjà le championnat, ça sera plus facilement. Mais en tout cas, on va suivre ça.
Ouais, et il y a un délai pour les transferts ou pas du tout?
Je n'en ai aucune idée, mais non. S'il doit y avoir quand même un moment où ça doit plus être possible, ouais. J'imagine.
Alors là, je pourrais pas être au niveau transfert parce que. Là,
j'avoue, je suis pas au point sur les règles.
Quand on en parlait la dernière fois avec l'UFAM, c'est ce que nous expliquait la coach, c'est que ça se discute dès janvier, donc techniquement, ça veut dire qu'il y a pas de période vraiment. Ouais. T'auras une période, on va dire, plus propice à l'annonce, je pense, et au transfert en termes de validation. Ouais. Mais je pense que limite à chaque match on peut te faire des propositions, quoi.
Ouais, okay. C'est possible. En tout cas, c'était ça pour la ligue féminine. Je sais pas si c'est différent pour la.
Je pense que pour les hommes, ça doit être sur le même règlement à peu près.
J'imagine. En parlant de ligue féminine, je vais maintenant passer à l'UFAB qui, après avoir joué à l'ASVEL la semaine dernière, les joueuses d'Aurélie Bonan avaient gros affaire à domicile face à Basketland. L'occasion pour Alexis Peterson de retrouver le public de Jambouin. Et malheureusement, les Angevines se sont faites dominer par Basketland. Score final de 58 à 71. Maintenant, je vais passer au Choletais. Tu voulais dire un truc, Cédric?
Sachant qu'il y a eu une grosse ovation et un gros accueil pour le retour de Peterson en début de match. Et je ne sais pas si tu as vu ça. Il y a eu une news il y a quelques heures. Pour l'équipe de France.
Non, j'ai pas vu ça.
Du coup, je vais te l'apprendre, mais Léa Lacante est sélectionnée.
Ah oui. C'est pas sa première sélection.
Non, mais en tout cas, voilà, on aura une Angevine présente. Et, chose intéressante, si vous voulez aller voir juste un match de l'équipe de France féminin, il y aura un match contre la Lettonie à Poitiers le 9 novembre. Donc c'est vrai que ça fait pas si long que ça. Et le match suivant, ce sera un peu plus loin. Ce sera contre l'Irlande le 12.
Ok. Ce sera en Irlande du coup ?
Ce sera en Irlande.
Ouais, ça fait un peu compliqué pour y aller à mon avis. Faut être un très grand supporter.
Mais en tout cas, voilà, ça confirme ça.
Il a Lacan qui
son beau niveau de début de saison et surtout de.
Une habituée des Bleus à mon avis. Voilà, maintenant du coup j'ai passé à Cholet comme je le disais. Les Choletais qui ont enchaîné deux matchs. Le premier c'est contre les anciens finalistes, les Metz 92 donc. Match dominé par Cholet 92 à 78 face à des Metz en difficulté dans ce début de saison qui, après avoir perdu Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, n'arrivent pas à se remettre dedans. Le second match c'était contre les champions au titre, les Monégasques. Et à la meilleure, les Choletais n'ont pas pu résister. et ont perdu 75-69. C'est la première défaite de Cholet dans cette saison qui, après 4 matchs, sont 4e du classement dans ce début de saison. Ça reste un très bon début de saison. Voilà, ils ont 2 matchs de retard aussi parce que à cause des matchs de qualification européens qu'ils ont réussi avec Brio. Ils ont 2 matchs de retard, mais ils sont quand même 4e parce que c'est pas comme le classement au basket et pas comme en foot. Oui. Voilà, il y a pas de match nul. Donc c'est on va dire le pourcentage de victoire dans la saison. Voilà pour l'actualité locale. On va passer à la petite pause musicale. Cédric, je te laisse nous la présenter.
Ouais, on est sur une journée un peu spéciale pour le monde du catch, puisque ça va être un gros mardi. Les deux fédérations qui sont les plus connues actuellement, la EW et la WWE, vont s'affronter. Les deux shows NXT, qui est le show de développement de la WWE, AEW Dynamite, qui est le gros show de la EW, fédération montante. Du coup, on va avoir le gros clash et du coup, on va s'écouter le générique de Dynamite.
Il est 20h23, vous nous écoutez toujours depuis le 101.5 FM ou le site internet www.radio-g.fr. Et Cédric, il me semble que tu as une nouvelle breaking news.
Ouais, et vous ne serez pas étonné d'apprendre que les Ducs viennent marquer le 3e, toujours dans le premier tiers-temps, à la 12e minute. On est bien parti encore sur un gros rythme ce soir.
Ça fait plaisir.
En sécurité.
Voilà.
Ouais. On va voir ce soir ce que ça donne réellement. Là, c'est intéressant.
Ouais, en espérant une victoire des Ducs pour qu'ils continuent.
Ouais, c'est ça, parce que bon, on sait que des fois, ça a été un petit peu nos défauts quand même, ne serait-ce que par exemple contre Bordeaux, où on menait et on s'est fait rattraper, et on gagne de justesse, donc. Mettons un maximum de chances de notre côté en scorant le plus tôt possible et puis Après, on gérera l'écart et on fera tourner l'équipe, histoire que tout le monde puisse aussi participer à la victoire et puis surtout prendre du temps de jeu, ce qui va être important, je pense, dans cette saison.
Et ben voilà. On va passer tout de suite aux actualités internationales. Donc, et Clément, tu vas nous parler Ligue 1.
Ouais, c'est ça. Je vais vous parler de la 8e journée de Ligue 1. Donc, je vais vous faire un petit résumé de tous les résultats. Donc, pour commencer, vendredi soir, il y avait Strasbourg face à Nantes et Strasbourg s'incline à la maison face à une équipe nantaise qui est dans une très bonne dynamique. Donc ensuite, il y a eu Nice-Metz et c'est une victoire 2-1 pour Nice qui garde son invincibilité et qui se classe 3e. Monaco conforte sa première place en battant 3-1 Reims qui reste tout de même 4e. Les Rémois qui entament très bien leur début de saison et qui sont sur la lancée de l'année dernière. Marseille sera sur sa pelouse enfin grâce à une victoire 3-0 face au Havre et remonte à la 6e place. Ça va faire plaisir aux supporters marseillais. Montpellier, alors que le match face à Clermont ne s'est pas terminé dû à un pétard, je sais pas si vous avez vu la nouvelle. Ouais, c'est ça. Un supporter.
Un imbécile.
Oui, ouais.
Employons les mots, c'est. Enfin, peut-être pas l'alcoolisme, c'est pas du coup. Si, ça a été du coup.
Ouais.
Mais on peut pas employer le terme de supporter parce que là, enfin.
C'est infligeant.
Qui a lancé un pétard sur le gardien clermontois alors que Clermont menait 4-2. Le match a été suspendu et.
Montpellier menait 4-2.
Montpellier menait 4-2 face à Clermont. Et donc le match a été arrêté. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que va devenir le match. Ensuite, Lyon se rassure dans un certain sens en sortant enfin un match potable face à Lorient. Et même si c'est anecdotique, remonte à la 17e place. Et ce match s'est soldé par un 3-3. Donc ensuite, le match entre Toulouse et Brest se solde aussi par un match nul, un partout. Et c'est la même chose pour le derby du Nord entre Lille et Lens. Et puis dimanche soir à 21h, Paris remporte son match face à Rennes sur un score de 3-1 et se rassure après la grosse défaite. Ouais. Je vais en reparler tout à l'heure.
Lyon, c'est quelque chose. Alex n'est pas là, il aurait peut-être été un peu énervé. Mais il gagnait 3-1 quand même.
Mais c'est le problème de Lyon. C'est
un manque de confiance énorme.
Puis c'est des joueurs phares qui viennent pleurer, mais le problème derrière, c'est bien de pleurer, de se plaindre et tout, de dire j'ai jamais vu mon équipe comme ça, mais derrière confirme pas. Et puis t'as des petits jeunes, heureusement, qui sont là, qui ont un peu plus la niaque, qui essayent de prendre les choses en main. Il faut espérer que ça bouge un peu dans ce point de vue là, quoi.
Ouais.
Après, bien sûr, tout n'est pas encore, je pense.
Tout n'est pas perdu.
Perdu, mais bon, ça va être compliqué cette saison, à mon avis. On sait pas trop. Derrière, il y a quand même plein d'histoires d'argent.
Extra-sportive.
On sait pas trop comment va se passer le mercato du coup de cet hiver. Étant donné qu'il y a toujours le contrôle de la masse salariale, mais apparemment, il y aura peut-être un départ d'un des actionnaires. Enfin, c'est la nébuleuse de Lyon en ce moment, très compliquée.
Bah, ce serait peut-être qu'on peut qualifier ça d'exploit de réussir à être ne serait-ce que dans le top 10 à la fin de l'année. Ce serait
au vu de leur début de saison. C'est vrai que je sais pas ce qu'ils visent là, honnêtement.
Je pense que le maintien,
la survie, je pense.
Parce que ça ferait couler le club de descendre en Ligue 2,
C'était, à mon avis, pas du tout les objectifs affichés au début de saison.
Disons, si c'est un club qui descend, tu vois. Logiquement, c'est un club qui a les capacités de remonter plus facilement, mais
ça fait quand même très mal.
Ce serait pas tout de suite qu'il ressentrait, puisque les budgets sont en décalé, c'est clair que l'année où il y aurait la transition, sur un budget Ligue 2, et même s'ils sont en Ligue 1, là, ça peut être compliqué.
Un Lacazette et un Tolisso en Ligue 2, ça ferait bizarre.
Ouais, vraiment.
On va peut-être parler ici vite fait aussi de la décision de la commission arbitrale par rapport au match Marseille-PSG.
Marseille-PSG.
Oui.
Que c'est-il
PSG-Marseille,
je sais pas la règle.
Non, moi non plus.
Bah, les insultes en tribune.
Ah oui, c'est vrai.
Et sur
oui.
la pelouse.
Ah oui, d'accord, ah oui. Avec, à la fin du match.
À la fin du match. Oui, enfin, pendant le match et après le.
Ah oui,
Le match. Donc, du coup, fermeture de la tribune.
Auteuil.
Avec un match de forfait, enfin pas de forfait,
bah ils ont pas le droit
de un match de suspension ouais. et plus un en cas de récidivis.
Ah oui.
Les joueurs, c'est un match en sursis. Donc alors après c'est là que ça pose la question parce qu'il y a quelques années pour la même chose sur un, je sais plus quel joueur marseillais, il avait pris un match ferme.
Ouf.
Donc un peu étonnant de voilà qu'il n'y ait pas le même résultat. Et c'est surtout, on va voir, puisque ça fait deux semaines où il y a des soucis comme ça. La semaine d'après, on a eu les mêmes soucis avec une tribune à Rennes, pour les mêmes motifs. Ouais. Donc logiquement, ça va être jugé cette semaine. Donc dans la logique, ça devrait être la même sanction. Donc
dans la logique.
On suivra ça quand même.
On verra.
Ouais, ils vont bien.
C'est des choses qui commencent à arriver de plus en plus. On va voir si Paris, c'était réellement une affaire de, j'ai envie de dire, médiatique des politiques qui étaient, ouais. qui étaient présents. Ou est-ce que c'est un vrai message qu'on veut envoyer au monde du sport aussi?
Ouais. Ouais. On suivra ça et on vous redira. Maintenant, au niveau foot, Clément, tu vas nous parler de la Ligue des Champions et des résultats des clubs français, c'est ça?
Ouais, des résultats qui sont un peu mitigés, on va dire. Donc, mardi, mercredi et jeudi ont eu lieu la deuxième journée de Ligue des Champions, d'Europa League et de Conference League. Et les clubs français, comme je disais tout à l'heure, on nous a sorti des résultats un petit peu mitigés, avec 6 équipes engagées dans les différentes compétitions. Et 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc on va commencer par le meilleur pour finir par la fin. Je sais pas si c'est le mieux, mais bon, j'ai fait comme ça. Donc on va commencer par l'exploit des Lensois en Ligue des Champions, qui fait le hold-up à la maison face à une équipe des Gunners sans solution, on peut le dire, qui nous ont sorti un match vraiment pas terrible, malgré un gros match des Lensois quand même. Donc les joueurs de Francaise s'imposent 2-1 avec un Bollaert en feu. Après 20 ans sans compétition européenne, Lens se retrouve en tête de son groupe, mais l'équipe de Génération Sport n'a toujours pas de bon prono.
Ah, j'étais pas loin.
Ouais,
2-0. J'ai dit 2-0. J'étais le seul à avoir eu la victoire de Lens au moins.
Mais bon.
Au moins, on avait dit que le public jouerait son rôle de 12e homme et on s'est pas trompé.
Ouais,
on a au moins ça de bon.
Ouais.
Non mais en tout cas j'ai regardé le match juste après l'émission et c'est vrai que ça faisait plaisir, il y avait de l'envie, ils ont pas trop paniqué après le premier but, ils sont remontés et derrière c'est eux qui ont installé leur jeu
et c'est
Arsenal d'un coup.
Des beaux buts hein.
Des buts magnifiques et puis par contre une défense lanceuse que j'ai trouvé solide, ils étaient tous soudés, il y avait toujours une jambe pour sortir le ballon quand il y avait des frappes dangereuses.
J'ai envie de dire, c'est l'équipe de Lens qu'on aime voir.
Voilà, c'est ça.
C'est l'équipe de Lens.
C'est le Lens depuis 3-4 ans maintenant. Hein, depuis
qu'ils étaient en Ligue 2 il y a 3 ans.
Qu'ils font leur travail dans la continuité de l'esprit lensois qu'on a toujours connu dans ce club-là. Quoi.
Ouais. Donc ensuite, peut-être, on peut qualifier ça d'un deuxième exploit. Cette fois-ci en Europa League pour les Toulousains qui s'imposent à la maison aussi. Donc le 12e de Ligue 1 a remporté sur le plus petit des scores son match face à l'équipe autrichienne du Linz ASK et se classe deuxième de sa poule, toujours invaincu. Donc toujours en Europa League, Marseille qui malgré un début de match très réussi, on peut le dire, avec des buts à la 19e et 20e minute, craque en fin de match totalement avec une baisse de régime énorme et voit les Anglais de Brighton recoller à deux partout dans les dernières minutes de jeu. Et avec ce match nul, se place deuxième de sa poule avec seulement 2 petits points. Égalité avec l'Ajax Amsterdam. En Conference League, les Lillois ont eu un déplacement peu commun sur les îles Féroé. et ça ne leur a pas trop réussi puisque l'équipe largement remaniée des Dogs rend copie blanche et repartent avec un triste 0-0 qui les classe tout de même deuxième derrière l'équipe de Bratislava.
Ouais, c'est des équipes qui sont toujours compliquées à jouer.
Ouais, bah qu'on connaît pas du tout. Enfin,
ouais, c'est les îles des championnats qu'on peut pas trop regarder finalement.
Ah, qui sont même pas diffusés,
ouais,
je pense.
C'est ça, c'est pour ça. C'est en tant que c'est pas partie des cinq grands championnats.
Ouais, c'est ça.
C'est plus compliqué à voir. Et c'est des équipes beaucoup moins connues qui n'ont pas forcément brillé par-ci par-là. Donc
c'est aussi le but de la compétition de mettre exactement un peu en avant ces petits clubs, on va dire. Donc il y avait les Rennais qui jouent en Europa League et qui s'inclinent malheureusement 1-0 en Espagne à Villarreal. Et ils ont énormément de regrets à avoir puisque ils auraient pu décrocher le nul à la dernière seconde sur un penalty de Martin Terrier, mais malheureusement il le manque. Et en plus de ça, après que le goal l'ait repoussé, il a une tête avec le but vide et il met la tête à côté. Enfin, une image assez triste à voir, on va dire ça comme ça, hein, puisque 1-1 ça n'aurait pas fait de mal. Et puis on va finir par le match qui nous a sûrement le plus déçus, avec la très mauvaise prestation du PSG qui conserve sa plus lourde défaite en phase de poule depuis l'RQSI. Donc ça fait pratiquement 10 ans qu'ils n'avaient pas pris un aussi gros score en phase de poule. Les Parisiens sont humiliés 4-1 par Newcastle dans un St James Park en fusion et une attaque parisienne fantomatique, si on peut dire ça comme ça. Mais les Parisiens restent tout de même dans les places qualificatives, ils se classent deuxième. Mais bon, c'est un peu anecdotique après le nul de l'AC Milan et Dortmund.
Ouais, après, il y a quand même beaucoup de choses à se dire sur ce match-là. Mm. Parce que bon, il y a eu une suffisance, je pense, des Parisiens.
Bah, qui essayent de ressortir de derrière.
Et puis, l'arbitrage.
Sur le deuxième but.
Je ne l'ai pas trouvé forcément. Bah, très 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 correct. La main qui est
sur le deuxième but.
C'est sur le deuxième but.
Pour expliquer un peu la scène, c'est un coup franc et le capitaine de Newcastle qui veut mettre la tête, mais il la touche complètement de la main et ça va sur un autre joueur qui frappe. Donnarumma l'arrête, ça revient sur un autre joueur qui centre et ensuite but. Et c'est quand même quelque chose qui est étonnant puisque même nous, quand on regardait à la télé, on voit clairement la main.
C'est évident.
Et l'arbitre, il consulte la VAR pour un hors-jeu qui nous intéresse pas, on va dire, et il met la main nous on voit qu'il y a la main et il siffle rien. Et puis après, il y a un coup de poing de Guimarães sur Ugarte et il va même pas voir la VAR alors que l'action se déroule juste devant lui. Je trouve ça
ça c'est peut-être vraiment l'image est folle quoi. Aucune raison
il prend un jaune mais enfin
bah il doit y avoir plus que ça.
S'il consulte pas son oreillette, il lui met rien du tout.
Ouais.
Alors que
c'est ça le problème.
C'est juste à côté de lui, c'est bizarre qu'il voit pas. Après, la main, c'est pas vraiment de sa faute. C'est la VAR qui lui dit plus d'aller voir leur jeu, plus que lui qui
dit.
Mais c'est ça
que je trouve que la VAR,
le problème, c'est
professionnel.
Toutes les images de la VAR qu'on a vues, à aucun moment t'as un zoom.
Oui, c'est ça, c'est fait. Ça.
Parce que, en soi, quand tu vois l'action, tu vois qu'il y a un contact, ça c'est sûr. Quand tu le prends dans le flux de l'action, c'est pas évident de savoir.
Oui, ouais.
Quand tu commences à faire des arrêtés, là, c'est un peu plus clair.
Bah, c'est très
mais
clair.
Tu fais un zoom, là, t'es sûr de savoir, parce qu'après, ça dit oui, mais il y a eu double contact. Bah oui, mais c'est la première main qui compte, normalement.
Bah ouais, c'est ce que. Mais bon. Mais après, aussi, Newcastle était clairement au-dessus, quand on voit, rien que des actions défensives où juste ils sortaient la balle en touche et tu voyais tout le stade qui se levait, qui haranguait les joueurs comme si ils venaient de marquer un but.
C'est comme Lens, c'était la.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ils retrouvaient l'Europe depuis
20 ans, c'est ça aussi.
Bah, ouais. C'était dans le même scénario. Mm-hmm. Donc, ils ont été aussi, a priori, galvanisés par le public.
Ouais.
Et puis, le PSG n'a pas bien joué.
Très mal.
C'est-à-dire que là, Mbappé, j'ai vu des relations Dembélé, Hakimi qui avaient bien fonctionné en Ligue 1, etc. Là, il n'y avait rien du tout à droite. Ça faisait perte de balle sur perte de balle dans les dédoublements.
Et d'ailleurs.
c'est pas beau à voir.
Et d'ailleurs, Enrique l'a dit que il aurait peut-être pas dû jouer avec ce schéma et jouer de cette manière contre une équipe qui pressait et qui était comme ça galvanisée par son public et qu'il aurait peut-être dû coacher autrement et puis mais voilà, ça prouve qu'il est aussi enfin moi je pense que c'est une personne bien pour le PSG puisque enfin c'est la première fois qu'on voit un coach reconnaître son erreur comme ça après un match quoi.
Après maintenant faut
après
faut
qu'il prouve, ce qui est dommage voilà, c'est que on le voyait clairement pendant le match que le système il était pas du tout adapté il est enfin je pense qu'il est plus adapté du tout au football moderne.
Bon, on verra.
Et il aurait dû réagir et faire un changement direct hein, c'est
Malheureusement, il l'a pas fait et ça a infligé une lourde défaite du coup aux Parisiens. Voilà pour la page football de cette émission. On va passer à la F1 maintenant avec la grosse info de ce circuit, c'est que Max Verstappen a été sacré champion du monde.
Grosse info ou info logique ?
Oui.
Alors moi, puis j'ai envie de te dire que c'était finalement pas ça l'info du week-end. C'est surtout que c'est ce Grand Prix il pose déjà. C'était la deuxième fois qu'il avait lieu. Deux ans, l'année dernière, je crois qu'il n'avait pas été homologué, ou en tout cas, il avait été décalé et annulé. Donc, week-end spécial, puisqu'il y avait un sprint. À partir du moment où le sprint s'est fini, Max Verstappen était champion du monde, donc il n'y avait plus de suspense vraiment pour la course. Et comme on sait, maintenant, c'est un nouveau système. Il y a les qualifications pour le sprint. Et les qualifications pour la course du dimanche. Donc, il partait pas en tête du sprint, mais il finit deuxième. Et sur la pole position du Grand Prix, il était en tête du début jusqu'à la fin, quoi.
Ouais, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Après, ce Grand Prix, il pose polémique parce que il y a eu des changements de règlement pendant le week-end. On a rétréci la piste puisque les pneus menaçaient de lâcher tout bonnement rapidement. Donc, du coup, modification de certains virages, ce qui a fait que durant la course, pas mal de pénalités pour ça.
Les pilotes étaient habitués.
C'est ça, il y a ça. Et puis surtout, ce qui est pour moi le plus grave, c'est ce que tous les pilotes quasiment ont eu, c'est des malaises. Soit pendant la course, soit après la course. On a un Ocon au 15e tour quand même qui vomit dans son casque. Ça prouve que c'est bien d'aller dans ces pays-là, mais quand il fait 50 degrés dans votre voiture à plus de 200 et quelques kilomètres heure, c'est trop dangereux. On a eu de la chance qu'il y ait personne qui ait tapé.
Il y a eu l'accrochage. Du début aussi.
Oui, mais ça après c'est un fait de course
c'est habituel.
C'est pas vraiment lié à la température, mais quand tu vois un Lance Stroll en pleine ligne droite qui lâche d'un coup son volant, enfin qui lâche une main du volant et que tu vois la tête qui tombe et qui se relève d'un coup, enfin.
Ouais, c'est
hyper dangereux.
C'était hyper dangereux, je pense que pour
c'était
des raisons.
C'était pas une bonne idée,
La bonne chose, entre parenthèses, c'est que l'année prochaine, il est programmé au mois de décembre.
Donc, plus frais.
Il fera peut-être plus frais, mais.
Mais bon,
reste frais, à voir. Quoi.
Tout est relatif.
Ouais.
C'est ça, on verra, mais en tout cas, c'est triste de mettre certains circuits comme ça au nom de l'argent, puisque de toute façon, il va falloir revoir la conception aussi du circuit, puisque les vibreurs sont en cause sur l'usure des pneus. Et puis peut-être que la FIA aussi doit revoir aussi ses priorités, je pense.
Ouais, c'était pas
beaucoup de débats.
Le problème, c'est qu'on va pas. On veut du spectacle, mais dès qu'il y a une possibilité d'avoir des petits incidents techniques et qui peuvent relancer un peu la course, un peu mettre de suspense, on s'en prive. Donc c'est très compliqué les réglementations maintenant. Enfin.
Ouais, c'est un week-end qui a remis en cause pas mal de choses et qui était pas top du coup a priori. Au niveau F1. Voilà, maintenant on va passer au cyclisme parce que c'était la fin du Tour de Lombardie avec la victoire de Tadej Pogacar pour changer, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est pas ce qu'on va retenir de cette course. En tout cas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est pas ce que je vais retenir car c'était la dernière course de Thibaut Pinot. Pour cette occasion, les supporters français ont recréé le virage Pinot qui était apparu cet été dans le Tour de France. Un hommage amplement mérité pour le coureur de la FDJ qui, malgré un faible palmarès quand même, hein, quelques victoires d'étape, mais rien de grandiose, a su nous faire vibrer pendant sa carrière. Et c'est un coureur extrêmement apprécié. Et je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez eu les images du virage Pinot là.
Si.
C'était voir ça dans le cyclisme, je pensais pas voir ça un jour, sérieux.
Non, j'ai pas vu, mais en tout cas, bah, si on devait résumer, enfin pour moi en tout cas, la carrière de Pinot, c'est des rendez-vous manqués, là, ça. Il y a au moins 2 ans, je pense qu'il peut largement être sur le podium du Tour de France.
Et, ah, il était parti pour le gagner, pour
et
moi.
Et le gagner, voilà, c'est... Je sais pas si c'est une malédiction des Français sur le Tour, mais en tout cas, c'est vrai que c'était techniquement celui qui pouvait le gagner, en plus sur plusieurs années. Mmh. Et là, ça s'est pas fait, pour X ou Y raison, mais bon. En tout cas, voilà, ça va, bien sûr, ça va faire un vide, je pense, l'année prochaine, au Tour de France. Ça sera peut-être plus calme dans certains virages.
C'est... Mais sûrement.
Mais bon, voilà, ça permet peut-être aussi à des jeunes d'arriver et puis de prendre exemple.
Ouais, on l'espère. Mais en tout cas, toi, t'as vu clairement des images un peu du virage.
Bah, de finir sa carrière là-dessus, ça doit quand même être quelque chose, quoi. De voir, il pouvait même plus avancer tellement, tellement qu'il y avait de monde. Mais c'est sûr que, enfin, pour moi, il mérite tout cet engouement, tout ça, mais. Parce que moi, je pense qu'il faut mettre un mais sur sa carrière parce qu'il y a, enfin, on peut avoir des regrets. Je pense qu'il aurait pu, enfin, je sais pas. Je pense que c'était une malédiction ou quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, enfin, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas au dernier moment ou un incident mécanique ou une maladie. Enfin, à chaque fois, il y avait un truc qui arrivait et, enfin, même lui, il devait se sentir maudit, quoi. Et pourtant, il avait les qualités, je pense, pour gagner au moins un tour, un grand tour, quoi.
Et malgré ça, quand même, il est resté idolâtré.
Ouais, c'est ça.
Public. Ça, c'est fort, quand même. Mm. On a plus retenu la personnalité, finalement, que les performances. Et c'est rare dans le sport en général de voir ça. Et je vais dire.
Ça se voyait qu'il faisait du vélo pour le plaisir, quoi.
Ouais. Ça, il kiffait. C'est un kiffeur, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça, j'ai envie de dire bravo Thibaut.
T'es grand.
Voilà, on va maintenant passer au rugby avec du coup Clément, tu vas nous en parler. La victoire de la France pour le match de poule.
Ouais, c'est ça. Donc je vais revenir sur le match des Bleus qui a eu lieu vendredi soir. Le 15 de France nous a rassurés en s'imposant facilement 60-7 avec un Mathieu Jalibert flamboyant, 3 passes décisives et un essai. Et il a été partout pendant ce match. Ce qui peut rassurer, puisque on avait des doutes sur le remplacement d'Entamac, et là je crois qu'on n'a plus de doutes parce que vraiment, c'est un super sub, on peut dire ça comme ça, parce que il a largement rempli sa tâche de remplaçant et ça fait du bien ça rassure surtout de voir comme ça que Entamac a pu être remplacé et puis même Lucu à la place de Dupont qui a fait son job, qui remplit son job sans en faire plus, mais qui remplit son job. Et en parlant de Dupont, c'est un retour de notre capitaine à l'entraînement et une possible participation au match dimanche soir. Après ça, on peut pas encore savoir. Je pense on ne saura que à partir de la composition, on ne saura pas avant. Donc pour revenir sur le match, puisque là je me suis un peu égaré, les joueurs de Fabien Galthié, comme je disais, se rassurent avant le quart de finale, qui peut être qualifié de finale avant l'heure. Donc dimanche soir, à 21h, ils vont affronter l'Afrique du Sud et décrocher, pourquoi pas, leur ticket en demi-finale. Et à mon avis, faire un grand pas vers la finale, puisqu'ils affronteront soit les Fidji, soit l'Angleterre en demi-finale, si jamais ils gagnent. En parlant des autres quarts de finale, il y a aussi le choc Irlande-Nouvelle-Zélande qui peut être aussi qualifié de finale avant l'heure en fin de compte, puisque c'est quand même un match aussi qui donne envie.
Très grande nation.
C'est ça. Et aussi le dernier quart de finale qui peut-être est peut-être un peu moins alléchant, mais qui tout de même réserve ses promesses, c'est l'Argentine face au Pays de Galles. Voilà.
Voilà pour un peu les quarts de finale. J'aimerais avoir
avec un côté qui est beaucoup plus
chargé que l'autre.
Chargé que l'autre et c'est vrai que nous
Bah non, du coup. De... C'est le côté, bah enfin, il y a un côté Angleterre, Fidji et Afrique du Sud, France, et l'autre côté Irlande, Nouvelle-Zélande et Argentine, Pays de Galles. Pour moi, enfin, c'est à peu près équitable.
Alors, moi, je trouve quand même que côté français, il est un peu plus chargé.
Ouais, 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 moi aussi.
Ouais, je trouve. Hein.
Bon, on n'a pas vraiment vu les Anglais. Pour moi, après, c'est pour moi, on n'a pas vraiment vu les Anglais dans un gros match.
Ils se sont fait peur sur leur, voilà, leur dernier match. Enfin, je ne sais pas réellement s'ils se sont fait contre peur le... ou s'ils ont plus aussi tourné deux, en mode parce que
ouais,
il y a eu quand même un gros match en phase 2. Mais les Anglais face, enfin, en admettant qu'on passe, les Anglais face à nous à domicile,
ouais,
on sait.
Bien parti. Et puis,
ça dépendra aussi qui peut être l'arbitre.
Mais oui. Pour moi, on est plus fort, on est largement plus fort. Enfin, là, les Anglais sont vraiment pas en confiance. Ils ont fait une préparation qu'on peut pas qualifier de désastreuse, mais qui a pas été flamboyante. Puis là, ils font des matchs face au Japon où apparemment ça a été un match vraiment très pauvre, que du jeu au pied, bah pas de jeu quoi. Et puis même, enfin, ils gagnent le dernier match de justesse. Et puis je suis pas sûr que ça les rassure. Après, peut-être que ils vont monter en puissance face aux Fidjiens, mais moi je verrais bien un exploit des Fidjiens personnellement.
Ah ouais.
Ouais.
Pourtant, ils ont perdu leur dernier match contre le Portugal.
Ouais, mais ça, je crois que. Ouais, je sais pas, on verra, mais
ça, moi je pense que ça les met pas trop, ça les met moyennement en confiance, hein, perdre le match contre le Portugal,
vrai.
Je les vois mal passer face à l'Angleterre et je vois un beau crunch entre la France et l'Angleterre en demi.
De toute façon, chaque match va être décisif.
Ouais, c'est clair.
C'est une nouvelle compétition qui commence. Hein.
Mais je sais pas ce que vous en pensez vous de à quel point la France a ses chances face à l'Afrique du Sud. Là, c'est pour moi le match le plus compliqué qu'on va avoir à jouer.
Ouais, et pour moi, ça va être tout va se jouer sur le pied, enfin sur le jeu au pied.
Ah ouais.
Parce que l'Afrique du Sud, bah j'ai vu le match contre l'Irlande et franchement, au pied ils sont catastrophiques.
Catastrophiques.
Ah vraiment. Ah, okay. Hein. Ils doivent gagner le match contre l'Irlande, mais à cause du jeu au pied, ils perdent le match. Mais je pense qu'ils ont raté plus de 10 points au jeu au pied. Sincèrement, c'est. Après, je crois qu'ils ont rappelé un bon buteur, mais je suis pas sûr qu'il va jouer. Et franchement, ils étaient vraiment pas bons. Enfin, nous, on a Ramos et Jaminet qui sont. Bah Ramos qui est le meilleur marqueur de la Coupe du Monde. Au pied, okay, et qui est vraiment incroyable,
transforme tous nos essais.
Ouais, c'est ça. Alors que bah pour moi ça va jouer vraiment au pied et bah on verra ce que ça donne, mais je dirais, bon allez, je vais faire un petit prono parce que voilà, je dirais allez plus 7 pour les Français.
Plus 7, un essai en plus.
Ouais.
Cédric, toi t'as un petit prono pour ce match?
Bah une victoire à la France, mais après je me risquerais pas. C'est toujours compliqué de pronostiquer un score,
ouais, un score en
rugby, ça peut aller très vite. Comme tu peux être dans un match où t'enchaînes pénalité sur pénalité.
Ouais. C'est vrai.
Ouais, moi pour ma part j'imagine aussi une victoire à la France. Après pareil, imaginer un score c'est assez compliqué. Et sinon, moi de l'autre côté, je verrais bien entre l'Irlande, parce que Pays de Galles, Argentine, bon, j'imagine que le Pays de Galles va passer.
Ouais.
Et après, Irlande, Nouvelle-Zélande, en vrai, je pense l'Irlande, hein, qui sont assez favoris dans ce match, et je les vois passer aussi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Clément?
La Nouvelle-Zélande qui est montée en puissance aussi.
Elle est revanchante,
depuis la défaite de l'équipe de France.
Ce qu'ils voient, je pense, derrière, c'est la finale contre la France. Effacer ce.
Je pense que ça va être vraiment un match. Intéressant à regarder et vraiment très 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 serré, parce que la Nouvelle-Zélande, même s'ils ont un peu perdu leur superbe, c'est quand même toujours une très grande nation de rugby, faut pas l'oublier. Même si l'Irlande est peut-être au-dessus, c'est un match et enfin on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est ça.
Ouais, c'est clair. Voilà pour la Coupe du Monde de rugby. Maintenant, avant de conclure, j'ai passé une petite chronique sur la pré-saison NBA qui a démarré il y a 2-3 jours. Ça dépend de chaque équipe. Voilà, donc ça a démarré dans un premier temps. C'était deux matchs opposant Dallas contre Minnesota. C'était à Abu Dhabi. C'était la deuxième fois que la NBA se déplace là-bas pour Pour la pré-saison, les deux matchs ont été remportés par Minnesota avec un Anthony Edwards aux allures de MVP. C'était lui qui avait notamment fait parler de lui quand il jouait avec Team USA cet été pour la Coupe du Monde. Bon, malheureusement, c'est pas pendant la Coupe du Monde qu'il a fait parler de lui, mais c'était plus au match d'entraînement, pardon. Je cherche mes mots. Voilà, on a aussi eu des matchs de Victor Wembanyama sous son nouveau maillot, qui dans un premier temps a réussi à quasiment remplir le stade de San Antonio dans un simple match d'entraînement où concrètement c'était 5 joueurs de San Antonio contre 5 autres. C'est ce que je fais moi à l'entraînement, des 5-5 comme ça.
Et t'aimerais bien remplir une salle aussi.
Ouais, c'est là, il y a pas un pélo dans les tribunes, donc on fait ça, mais là du coup, c'est fou l'engouement qu'a ce mec aux États-Unis.
La pression qu'il a sur les épaules.
Ouais, aussi hein, mais bah, ouais. Il a l'air de bien la gérer.
Oui.
Parce que le deuxième match, ça l'opposait à Chet Holmgren, qui est un rival au titre de rookie de l'année, qui a à peu près le même profil que lui, un joueur très grand, très long, tout fin, qui shoot, qui dribble, qui dunk, qui défend. Et il s'en est très bien sorti en scorant 20 points. Il me semble que c'est 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 blocs et 3 interceptions, avec aussi de très beaux highlights dont il a l'habitude de faire avec des mains qui passent partout. Il se fait passer en défense, il revient derrière, un gros contre, des dunks, des 3 points. C'est magnifique de voir
c'est
ça.
C'est le match qui avait lieu hier soir, ça.
Ouais, c'est ça.
Donc il était, moi quand j'ai regardé un petit peu sur Twitter, je crois qu'à la fin de la première mi-temps, il était déjà 18 points.
Ouais, c'est ça, 18 points. Et Chittenden en face de lui était à 21 points, il finit le match à 21 points. Donc ouais, ils ont carburé en première mi-temps et après ils sont un petit peu éteints, mais c'était quand même des bons pourcentages au shoot. Ouais. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont pas complètement loupé leur deuxième mi-temps en fait.
Ouais, et puis enfin moi ce que j'ai vu voilà sur la première mi-temps, c'est un bon travail aussi de repli défensif quand il fallait. Comme tu dis, il te saute à une hauteur pour te choper ça. Et je crois qu'il y a une action où tu le vois qui saute, tu fais ouais c'est bon, le mec il a juste à lever le petit doigt presque, puis c'est bon. Ouais, quoi. C'est...
J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner là.
Aussi, là. Puis même dans les matchs à venir de pré-saison, le voir bouger, enfin bref, c'est fou. Bon, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du basket.
Et c'est un Français en plus.
Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, on va peut-être avoir le meilleur joueur de tous les temps. Français, mais bon, on va pas trop s'avancer non plus. Déjà, on lui souhaite juste une bonne saison rookie avec un.
S'il nous écoute,
j'imagine. Bonjour, hello San Antonio, on va dire. Voilà. À part ça, toutes les équipes ont donc presque ou déjà toutes joué des matchs de pré-saison. Petite info, Toronto a gagné son premier match de pré-saison. J'étais heureux. Et sinon, la saison reprend le 24 octobre.
Et puis on a eu enfin la fin de notre fonction, feuilleton.
Jouer l'NBA.
Ah oui, j'ai
décidé de jouer pour les États-Unis.
Malheureusement.
Je rappelle, il avait le choix entre la France, le Cameroun et les États-Unis. Et il a choisi les États-Unis, comme d'ailleurs au Media Day. Il y a tous les joueurs, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jalen Brown, et il m'en manque plein, qui ont dit vouloir jouer pour les États-Unis. C'est une équipe qui va faire très très peur à Paris 2024.
En tout cas, sur le papier.
Et qui va être belle à jouer.
Ah bah là,
ça sur va le être, papier, en tout cas, c'est très joli. On verra si les égos aussi sauront s'éteindre un peu, parce que.
Le retour de la Dream Team.
Ça vaudra jamais celle de 92.
L'émission touche à sa fin. On va vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.